R22 tout le monde. Antenne Jeff Clack.
Eh ben, bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup de l'invitation. On est très très content d'être là. Donc on est une petite partie du collectif de Jeff Clack ici présent. Je vais vous faire un peu raconter un petit peu le collectif vite fait, puis après on vous présentera le cœur de la discussion qui est le dernier numéro. Donc Jeff Clack, c'est un collectif où on est entre 15 et 30 personnes, selon les moments, selon les temps, selon les implications, qui existe depuis 2012, dont l'objet principal a été de créer une revue. Disons que c'est ce qui a réuni un peu tout le monde au départ. Des gens qui étaient d'horizons un peu différents. Il y avait des personnes qui venaient du milieu du social, d'autres qui travaillaient déjà auprès de revues un peu alternatives. Il y avait des journalistes, des libraires, des chômeurs. Et du coup, en fait, l'idée, c'était de créer une revue de critique sociale, mais qui soit un petit peu différente de ce qui pouvait se faire à l'époque, et qui notamment essaye de joindre la critique sociale avec des formes qui n'étaient pas souvent considérées comme pouvant en faire partie. Donc notamment dans Jeff Clack, vous pouvez trouver des BD, de la littérature, du son aussi. Il y a des pièces sonores, il y a un CD dans chaque numéro, il y a un groupe son. Et voilà, c'est le sixième numéro. Le premier numéro était paru en 2014. On publie généralement en septembre. C'est une revue qui voulait être semestrielle, mais qui n'a jamais réussi à l'être. Donc là, maintenant, on a assumé qu'on était annuel. Le truc principal de Jeff Clack, c'est qu'il y a une petite contrainte, c'est qu'on suit la comptine des trois petits chats. Donc chaque numéro suit la comptine. Donc en fait, le premier numéro était Marabout, ensuite il y a eu Bout de ficelle, Selle de cheval, Cheval de course, Course à pied, et maintenant Pied à terre, qui est donc le sixième. À chaque fois, en fait, il y a une discussion collective autour de ce mot ou de ce couple de mots où on essaye de dégager un thème, ce que ça nous inspire. Et du coup, après, on va vous raconter. Que vous dire d'autre ? Jeff Clack, c'est, comme je vous disais, c'est un collectif, donc c'est un collectif horizontal. Il n'y a pas une direction de la rédaction. Toutes les tâches sont partagées, y compris du coup le travail sur les articles. Tout est discuté ensemble. Il n'y a pas de salariés. On paye la revue déjà avec ses ventes et aussi avec des soirées de soutien notamment, et quelques subs grattés par-ci par-là quand on y arrive. C'est un site internet aussi qu'on essaye d'alimenter à peu près une fois par semaine avec des nouveaux contenus qui collent un petit peu plus à l'actualité des fois que la revue, évidemment, qui s'inscrit plus sur un temps long. Et voilà, du coup, je vais passer la parole à Bruno qui va vous présenter Pied à terre.
Bonjour. Donc moi, je vais essayer de dire un mot sur ce numéro. En fait, en 2014, dès le début, quand on a commencé à se dire qu'on allait faire un numéro qui tournerait autour de la comptine Trois petits chats, il y a une blague qui a vite tourné, à savoir que quand on arriverait à Pied à terre, on serait sans doute un peu épuisé. On serait sans doute un peu épuisé, on aurait peut-être marre de la comptine et tout, on aurait peut-être besoin d'une pause, et que peut-être que pour ce numéro-là, on pourrait ne pas faire de publication, un peu comme Franquin avait fait avec le numéro 5 de Gaston Lagaffe, même si dans les rééditions, les éditeurs ont un peu foutu ça à la poubelle, mais il n'y avait pas eu de numéro 5, et on s'est dit que c'était une bonne idée de faire une pause à ce moment-là. Alors après, évidemment, quand on est arrivé à la fin de Course à pied, et qu'on a commencé à envisager ce qu'on allait réellement faire pour le numéro 5, donc pour Pied à terre, 6, je pense que très vite, majoritairement en tout cas, il y avait quand même l'envie de publier un numéro. Et donc on a discuté comme d'habitude de comment on allait aborder cette histoire de Pied à terre. Je crois qu'on est assez vite parti d'une idée du groupe son qui avait déjà enregistré une séquence militaire sur ce que c'est qu'un pied à terre, quand un soldat à cheval doit descendre, etc. Donc il a essayé de partir du mouvement de pied à terre, à savoir arriver quelque part, se poser, puis repartir, ce qui nous permettait d'éliminer un certain nombre de thématiques comme le retour à la terre, l'habiter, des choses comme ça. En fait, on fait beaucoup... On passe beaucoup de temps à définir la thématique et à discuter de ce qu'on a envie de traiter, de ne pas traiter, à essayer de trouver un terrain d'entente à partir des désirs de chaque membre du collectif. Donc en vrai, on n'a pas tout à fait abandonné cette idée de... Donc on est parti sur la séquence arriver, se poser, repartir. On n'a pas totalement abandonné l'idée de pause et de... et la volonté de faire un numéro un petit peu différent par rapport à ce qu'on avait fait jusqu'ici, à savoir qu'on a décidé de faire une espèce d'auto-enquête, ou en tout cas d'essayer de raconter un peu ce qu'était le travail du collectif. Parce que certains d'entre nous... Comment dire ? On avait publié un article sur un collectif espagnol qui s'appelle Clean Amen, qui était un collectif éditorial, il me semble. Et... au moment de sa dissolution, ils ont décidé, ils ont fait attention à essayer de publier une auto-enquête. Et c'était après la dissolution. Et le texte était à la fois hyper intéressant et en même temps, on était un certain nombre à trouver qu'il ne rentrait pas assez dans les détails. Enfin, que c'était un exercice hyper intéressant de raconter une expérience collective, y compris ses échecs, ses difficultés, etc. Mais que quand même... voilà, c'était important de rentrer un peu dans la cuisine des collectifs, hein, de rentrer un peu dans le détail, et que c'était important de le faire avant de mourir aussi. Enfin, et donc, on a finalement retenu l'idée de consacrer un bout de ce numéro-là à essayer de raconter donc, l'histoire du collectif. Donc, pour ça, je ne vais pas faire tout le détail, ce n'est pas le sujet ce soir, mais on a fait différentes formes, enfin, ceux qui l'ont lu, ou, enfin, vous pouvez le feuilleter... et voir, à la fois on s'est interviewé entre nous pour se raconter comment on travaillait comment chacun travaillait quotidiennement. On a fait des espèces de cartes magiques qui correspondent un petit peu au rôle récurrent qu'on peut tous occuper dans un collectif, et en essayant de faire quelque chose d'un peu marrant et qui ne s'attache pas que aux fonctions directement productives. Enfin, dedans, il y a plein de fonctions qu'on a gardées comme importantes. Enfin, par exemple, les gens qui veulent boire un verre après les réunions, ce qui permet de faire de l'écologie collective et de se réconcilier après des moments de tension, des choses comme ça. Et ça nous a permis d'insister pas mal sur ces fonctions-là. On a répondu à un questionnaire écrit par Max à la fin du 19e pour essayer de dresser un portrait de la population ouvrière française, en essayant d'y répondre un peu sérieusement pour quand même... enfin, pas que sérieusement, mais pour essayer de dessiner un petit peu qu'est-ce que c'était le travail associatif aujourd'hui. Bon, bref, on a fait quelques formes pour se raconter. Après, on a quand même fait un numéro qui brode au-delà de cette histoire d'auto-enquête sur le collectif pour ce numéro pied-à-terre. Donc, on a abordé d'autres sujets comme, je ne sais pas, par exemple, la colonisation avec un entretien avec une historienne qui a étudié comment... l'État français a poussé pas mal de Français de métropole et de classe populaire à s'installer en Nouvelle-Calédonie, ou un article sur un livre et une série américaine qui s'appelle American God, sur comment les différentes arrivées aux États-Unis sont arrivées, y compris avec leurs différentes divinités païennes. On a aussi abordé des thèmes comme... comme le tourisme, avec un entretien croisé de trois collectifs qui luttent contre la touristification. Et une des autres micro-thématiques du numéro, c'était de parler un petit peu de qu'est-ce qu'on fait avec les migrants qui arrivent en France et comment eux arrivent à faire pied à terre malgré les politiques migratoires et y compris aussi les politiques de gentrification sur les villes. Et là, donc, je vais peut-être vous passer la parole. Donc, c'est plutôt les deux articles qu'on va traiter ce soir.
Bonsoir. Et donc, dans le cadre de Pied-à-Terre, on réfléchissait un peu à la question des installations provisoires, de ce que c'est que d'être installé provisoirement ou de manière précaire quelque part, et surtout les cas de figure où le provisoire finit par durer, en fait. Et il se trouve qu'on était plusieurs à avoir des expériences ou associatives ou collectives qui touchaient à la question des hébergements d'urgence. Et donc les hébergements d'urgence qui concernaient notamment les personnes réfugiées, exilées, qui arrivent sur le territoire français. Et donc il se trouve que pour ces personnes sans abri, l'État en théorie prévoit des hébergements. Il y a toute la facette de l'hébergement institutionnel. qui prévoit à la fois des hébergements longue durée et dans le cas des personnes, d'autres personnes, des hébergements plus courte durée, ce qu'on appelle l'hébergement d'urgence, qui en gros prévoit des hébergements à la nuitée en fait. Et donc on le sait tous quoi, cet hébergement institutionnel, il est extrêmement défaillant. Il y a très peu de place par rapport aux besoins des personnes. Et non seulement il y a très peu de place, mais ensuite les conditions de cet hébergement, elles sont par moments peu sécurisantes, par moments elles sont humiliantes et par moments l'accès même à cette information-là ne peut pas se faire quoi. Et donc ça produit des cas de figure où juste beaucoup de personnes dorment à la rue et arrivent à Paris, arrivent à Strasbourg, arrivent dans plein de grandes villes avec rien quoi et dorment sans toit. Et donc à partir de cette situation-là, il y a des initiatives qui s'organisent du coup dans les interstices de l'hébergement institutionnel. C'est des initiatives qui répondent du coup à des situations d'urgence parce que concrètement, il y a 100 personnes qui sont dans un parc à tel endroit, à Strasbourg, à Porte de la Chapelle, à Paris, etc. Et donc, cette urgence, elle consiste à en gros mettre un toit au-dessus de la tête de ces personnes qui dorment dehors. Et donc, on se propose ce soir en fait, de penser à cette mise à l'abri d'urgence à partir de deux articles. Donc, un article que Judith a écrit, un article que j'ai écrit, qui concerne deux situations extrêmement différentes et dans lesquelles on a été prises l'une et l'autre, quoi. Donc, on n'est pas des spécialistes ni de l'hébergement institutionnel, on n'est pas des chercheuses ni des savantes sur cette question-là, mais on a été pris dans ces expériences-là. Et donc, on a un peu enquêté et produit des textes un peu différents à partir de ces situations-là. Et donc, on se propose là, ce soir, de redéplier un peu ces expériences-là et leurs entours, quoi. Voilà comment ça s'organise. On ne va pas vous raconter les articles qu'on a écrits, mais on va essayer de se demander pourquoi on les a écrits, pourquoi on a voulu parler de ça. Et voilà. Alors, dans le texte que j'ai écrit pour Pied-à-Terre, c'est une enquête qui s'intitule « Au jour le jour, à la nuit », qui s'intéresse à une situation qui s'est mise en place à Porte de la Chapelle à Paris. Il se trouve qu'en 2018, la ville de Paris a construit un centre d'hébergement qui s'appelle le Centre humanitaire Paris Nord. C'est un centre d'hébergement qu'on a appelé la bulle parce que c'était une espèce de grosse bulle blanche comme ça. Elle a construit ce centre sur un terrain intercalaire, donc en gros un terrain qui est vacant entre deux types d'occupation. Et donc c'est un terrain qui a été réquisitionné pour 18 mois. Donc déjà c'était un projet qui était vraiment provisoire, quoi. Et donc pendant 18 mois, il y a eu ce centre qui s'est mis en place où la ville de Paris a travaillé avec des associations comme Emmaüs Solidaire et Utopia 56, qui est une association qui s'est montée à Calais et qui proposait un certain nombre d'aides en fait pour les démarches juridiques, pour distribution de la nourriture et tout un tas de questions logistiques en fait autour des personnes qui étaient dans des campements à Calais. Et cette association, elle est montée en puissance, elle a commencé à proposer tout un tas d'aides différentes. Et à Paris, elle s'est retrouvée à travailler avec la ville de Paris autour de ce centre-là. Et donc, c'était un centre qui avait 400 places. C'était très peu par rapport à toutes les personnes qui dormaient à la rue à ce moment-là. Il se trouve que non seulement ce n'était pas assez, mais en plus, le centre faisait rentrer les gens au compte-gouttes. Et donc, il y avait des files d'attente interminables, en fait, aux abords du centre. Et les gens rentraient au compte-gouttes parce qu'il y avait plein de procédures quand on rentrait dans ce centre-là. Il fallait laisser ses empreintes digitales, il fallait remplir plein de choses. Et de fait, c'était pas toujours des situations aidantes pour les personnes qui ont été logées là, parce qu'elles devaient donner beaucoup d'informations. C'était très disciplinaire et des associations sur place ont remarqué que ça limitait l'accès à certaines démarches administratives. C'est-à-dire qu'il y avait un tri qui était opéré pour les personnes qui étaient logées dans ce centre-là. Certaines personnes, on allait leur donner l'information et on allait leur donner accès à des démarches administratives de régularisation, de l'accès aux demandes d'asile, etc. Donc, il se trouve que Utopia 56, en tout cas, qui était au début en partenariat avec ce centre-là, a claqué la porte. Et avec d'autres associations, elle a commencé à proposer une aide autour de ce centre-là de manière indépendante et à fournir, du coup, les aides qu'elle était censée fournir dans ce centre-là. Et donc, par exemple, ça consistait à distribuer des couvertures, aider à la distribution de repas en partenariat avec d'autres associations comme le Secours Populaire, à informer sur les démarches administratives. Et en fait, petit à petit, l'association Utopia 56 a décidé, à cet endroit-là, là, à Porte de la Chapelle, de mettre en place une mise à l'abri d'urgence des familles, des nombreuses familles qui n'étaient pas, qui dormaient dehors, en fait, à cet endroit-là. Et elle a mis en place un dispositif qui consistait à héberger en priorité les familles à la nuitée. Je me suis proposée pour être bénévole dans cette association. Et donc, j'ai commencé à accompagner en fait, des familles chez les particuliers qui allaient les héberger. Dans cette expérience-là, il y a plusieurs choses qui m'ont frappée. La logistique en fait, de cette mise à l'abri et les incompréhensions qu'elle suscitait de part et d'autre, quoi, pour commencer. Parce que ce que l'association faisait en fait, chaque nuit, c'était à partir de 18h de recenser toutes les familles qui étaient présentes, d'avoir une idée de la composition des familles, c'est-à-dire une mère, deux enfants, un couple, un enfant, etc., etc., deux sœurs, etc. Et par ailleurs, de faire un état des lieux des hébergements disponibles, des solutions d'hébergement disponibles, et de voir quels hébergeurs et hébergeuses étaient prêtes à proposer qui une chambre, qui deux chambres, etc. Et donc, elle voyait avec ses hébergeurs et hébergeuses s'ils pouvaient héberger, par exemple, deux femmes, par exemple, un couple, par exemple, des enfants, voilà. Simplement, ce qui se passait un peu tous les soirs, c'était que les compositions des familles changeaient en cours de soirée pour un ensemble de raisons qui sont tout à fait valables, quoi. Qui sont des raisons de stratégie, c'est-à-dire un homme seul a tout intérêt à dire qu'il a une femme, des enfants pour être hébergé, parce qu'en fait, sinon, il est exclu de base par ce type de dispositif. C'est à la fois une question de stratégie et aussi que quand on arrive à cet endroit-là, à Porte de la Chapelle, qu'on est arrivé sur le territoire, mais on ne sait pas du tout à qui on a affaire, on ne sait pas ce que ces associations, si c'est une entreprise, si c'est l'État, si c'est des gens qui viennent aider comme ça un peu spontanément. Et donc, du coup, il y a un ensemble d'incompréhensions qui se nouent à cet endroit-là. Et en tout cas, qui provoquait, je le voyais, beaucoup d'irritation chez les bénévoles. Donc voilà, ça, c'est une des premières choses qui m'a frappée, c'est un peu ces incompréhensions-là. Une autre chose qui m'a frappée, c'était que ce dispositif-là était très à l'écoute des conditions posées par les particuliers. C'est-à-dire que les particuliers étaient invités à dire voilà, moi, je peux héberger quelqu'un à partir de 22h, à partir de 23h, et je pars au travail le matin à 7h, donc il faut que les gens partent à 6h30. Donc voilà, on comprend tout à fait pourquoi ces conditions-là peuvent être posées. Hein. Simplement, je me suis dit qu'il fallait peut-être s'interroger sur le point de vue des personnes qui étaient mises à l'abri. Qu'est-ce que ça veut dire, par exemple, de... alors oui, on dort pas dehors, donc c'est super de pas dormir dehors, hein, ça on va pas dire le contraire. Mais qu'est-ce que ça fait en gros tous les soirs d'arriver à 22h chez quelqu'un, de repartir à 7h le lendemain matin, de changer de toit tous les soirs? Ce qui est frappant en fait, c'est qu'on est hors de l'institution. On est vraiment dans un dispositif associatif, donc que l'association a conçu de toutes pièces, quoi, avec les contraintes qu'elle s'est données, etc. Mais il y a une sorte de, il y a évidemment une logistique qui se met en place et aussi une pragmatique, quoi. C'est-à-dire à quel titre on accueille, quelles conditions on pose. Et donc un an plus tard, je suis revenue pour être bénévole. Enfin, j'ai refait. En fait, je me suis réinscrite pour être bénévole. J'avais quitté parce que pour un ensemble de raisons, ça me gênait en fait ce qui se passait. Et donc je suis revenue pour faire cette enquête. Et en accompagnant du coup chaque soir des personnes jusqu'à un domicile de particulier. Et donc à chaque fois, j'ai un peu discuté avec les personnes qui hébergeaient pour voir un peu qu'est-ce qu'elles disaient de cette situation-là. Et j'ai aussi discuté avec les personnes qui étaient hébergées. Et donc, cette enquête, elle porte un peu sur cette triade-là, en tout cas, les hébergeurs et hébergeuses, les hébergés et l'association qui coordonne et qui régule cette situation-là, quoi. Et donc, pour vous décrire un peu, donc, c'est un hébergement qui est strictement à la nuitée, qui est très organisé parce qu'il y a énormément de personnes qui vont être concernées par ce dispositif. C'est un dispositif qui est conçu pour maximiser en fait, les possibilités de secours et de mise à l'abri. Donc il faut beaucoup d'hébergeurs et d'hébergeuses pour mettre à l'abri beaucoup de gens qui sont à la rue. Et donc ce dispositif est conçu pour cette maximisation-là. Et comment est-ce qu'on organise cette maximisation-là dans un cadre qui n'est pas du tout institutionnel, donc avec des moyens associatifs? Et donc, pour avoir beaucoup d'hébergeurs et d'hébergeuses, il faut mettre en confiance, quoi. Donc, il faut que ces hébergeurs et hébergeuses soient à l'aise avec cette possibilité d'accueillir des gens chez eux. Et donc, il faut qu'ils aient un certain nombre de... il faut qu'il y ait des précautions, il faut qu'ils puissent poser leurs conditions, etc. Et par ailleurs, ça implique d'autre part du côté de l'association de savoir parfaitement qui sont les gens qui ont besoin d'aide. Et ensuite, il faut des bénévoles qui donc assurent cette liaison et qui fait que pour les hébergeurs et hébergeuses, la situation est vraiment clé en main. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui sonne à 23h, une personne migrante qui arrive avec un bénévole et la personne repart le lendemain avec son itinéraire pour l'endroit où elle se rend le lendemain matin. Je vais juste vous lire un petit extrait. Alors la première chose que je vais vous lire, c'est en fait c'est une citation qui se trouve sur le site d'Utopia 56 et qui explique ce dispositif aux personnes qui voudraient aider. Et donc, ils le décrivent comme cela. « Ce programme d'hébergement d'urgence convient particulièrement aux personnes qui travaillent, parfois tard, et qui ne peuvent pas accueillir sur du long terme. » Alors, les hébergeurs et hébergeuses qui auront fourni certaines assurances, donc qui doivent montrer des extraits de casier judiciaire, des cartes d'identité, et dont les logements ont été vérifiés par des bénévoles, signent des conventions qui établissent la responsabilité juridique de l'association et qui les protègent d'un éventuel délit de solidarité. L'association dispose ainsi d'une centaine d'hôtes et d'hôtesses, qu'elle appelle citoyens, citoyennes, qui sont à ménager, à préserver, parce qu'elle espère pouvoir compter sur elles et eux nuit après nuit. Le programme d'hébergement à la nuitée a été conçu pour qu'une aide encadrée par un protocole puisse s'intégrer régulièrement et avec fluidité au quotidien contraint des citadins et citadines. Donc c'est un dispositif qui permet ainsi de recruter des personnes qui se considèrent comme peu disponibles pour ce type de pratique associative et solidaire, qui ont un temps restreint à donner, qui ont une énergie qui est là, mais qui est aussi limitée. Et donc le rôle des bénévoles consiste justement à les préserver des remous de la gestion de l'hébergement d'urgence, c'est-à-dire la composition des familles changeantes, les imprévus, l'accompagnement et le suivi des hébergés, en leur apportant les informations les plus claires et les plus fiables possibles, ainsi que la possibilité d'une aide clé en main qui respecte scrupuleusement leurs contraintes personnelles. Et donc, les hébergés avec qui j'ai discuté m'ont dit, par exemple, que parfois, on te demande si t'as faim et on te donne des petits trucs à manger. Très souvent, on offre le thé le matin avant de partir. En tout cas, la plupart ne nous proposent pas de prendre une douche. On ne peut presque jamais laver nos vêtements. Et donc là, cette jeune fille qui me disait ça me disait qu'elle, elle allait laver ses vêtements à la halte femme, un endroit où elle avait accès à une laverie gratuite, mais où il faut s'inscrire et il faut attendre un mois avant d'avoir une place, par exemple. Une autre fille me disait « Quelques-uns nous donnent du savon, du shampoing, mais ce n'est pas fréquent. » Et une autre me dit « Une fois, on a pu rester 2 semaines chez une personne, mais par contre, il fallait qu'on parte à 7 ou 8 heures le matin. » Et il nous envoyait un texto pour nous dire à quelle heure on pouvait rentrer le soir. Mais il était hors de question qu'il reste la journée, quoi. Voilà. Et elle ajoutait « On a changé tellement de fois de maison, on a vu tellement d'endroits différents, des maisons, des appartements, des petits studios, des propriétaires, des locataires. » Mais en bougeant comme ça de nuit en nuit, on n'a pas l'espace de s'organiser, de voir venir et d'imaginer nos vies. Une autre disait « Certaines personnes sont amicales, c'est le cas de la plupart. D'autres sont bizarres, on ne se sent pas à l'aise. Certaines nous montrent les chambres, les toilettes, sans nous parler, de manière un peu expéditive. Et ceux ou celles qui ont l'habitude sont souvent plus stricts. Ils parlent peu et s'en tiennent à l'essentiel. Et une autre rajoute, les meilleurs, c'est ceux qui hébergent pour la première fois. Eux, ils nous chouchoutent. Voilà. En fait, on voit que ces conditions qui sont posées, du côté des hébergeurs, par exemple, mais ça, c'est l'association leur propose de fonctionner comme ça, c'est-à-dire, moi, je peux un jour par semaine, moi, je peux le mardi soir, moi, le dimanche soir, etc. Je peux de telle heure à telle heure. Moi, je ne veux pas d'homme, ou alors moi, je ne veux pas d'enfant. Voilà. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est qu'alors qu'on est vraiment hors institution, il y a tout un ensemble de choses qui, en fait, limitent et minimisent la surprise. En fait, et ça déborde pas en fait, ça déborde très peu. C'est très rare. Les hébergés doivent vraiment partir au moment où les hébergeurs et hébergeuses vont au boulot. C'est très rare qu'on leur dise, tu peux rester puis tu claques la porte en sortant quoi. C'est vraiment rare que ça arrive. Je suis pas en train de dire que c'est bien ou c'est pas bien. Juste voilà, c'est descriptif, c'est comme ça que ça se passe quoi. Et donc en fait, alors que on est a priori de personne à personne, il y a quelque chose de très programmé et très routinier qui se met en place et une espèce de sécheresse en fait de la situation quoi. Alors ça, ce côté relation à minima, ça convient à certaines personnes. Il y a des hébergés qui m'ont dit, mais moi j'ai pas envie de raconter ma vie tous les soirs à des personnes différentes en fait. Genre, j'ai pas envie de venir incarner un récit de migration tous les soirs à des personnes différentes. J'ai pas l'énergie, là. Et puis, on va pas se connaître en une nuit, quoi. Enfin, je vais pas servir à ça, en fait. Là, je veux bien dormir à l'abri, mais... Et il y en a d'autres qui disaient, bah, moi, j'aime bien quand c'est chaleureux, qu'on discute, j'aime bien quand on me pose des questions sur pourquoi je suis là, voilà. Et donc, ça dépend des gens, quoi. Mais ce qu'on perçoit clairement, c'est que les personnes hébergées sont petit à petit aussi aliénées à cette aide, parce que ça représente une vraie discipline. En fait, il faut venir à 18h pointé au lieu précis, au lieu de rassemblement qui a été un temps à Porte de la Chapelle puis à Porte d'Aubervilliers. Il faut venir à 18h et puis on a une solution, on est accompagné souvent pas avant 22h quoi. Et donc en hiver, c'est 4 heures dans le froid, c'est pas facile. Et puis on arrive tard, donc le temps de se laver les dents, etc. Enfin, quand on nous propose de le faire. Hein. Et il faut partir le lendemain tôt. Et on dort pas forcément très bien quand on est chez des personnes différentes tous les soirs, quoi. Ça, on peut bien l'imaginer. Et ensuite, il faut passer la journée avec toutes ces affaires sur le dos, parce qu'en fait, il n'y a pas d'endroit où on peut poser les affaires. Voilà. Donc, c'est vraiment c'est la condition que ça dessine. Donc, il y a des fortes chances d'avoir un toit quand on va pointer à 18h à cette association, d'autant plus quand on est une femme. Très, très peu de chances quand on est un homme seul, par exemple. Même, je crois qu'on n'est même pas concerné. Et quand on est une famille, on a vraiment des chances. Mais voilà, ça veut dire ça. Ça veut dire qu'en fait, le matin, retour à la case départ. Et donc, ça implique... Alors, on est hors hébergement institutionnel, mais ça implique d'autres temporalités. C'est-à-dire qu'il y a à la fois ce côté systématique, très programmé, etc. Mais de fait, pendant les vacances et pendant l'été, il y a moins d'hébergement d'offert parce que les gens sont moins là, etc. Donc, c'est un autre équilibrage, en fait, de ce qui est proposé... Et en fait, du côté de l'association, par exemple, souvent, les bénévoles, moi, que j'ai rencontrés, c'est pas du tout une vision exhaustive, hein, j'ai pas fait une sociologie de ça, hein, mais j'ai rencontré beaucoup de jeunes gens, étudiants, pour qui c'est aussi un petit peu excitant. Tous les soirs, c'est une sorte de challenge, en fait, de réussir à caser tout le monde, en fait, tout simplement, et qui est pas sans problème avec la police. Enfin, la police les laisse faire, bien sûr, mais par exemple, leur dit faut pas trop que ça se voit, il faut pas que ça prenne trop de place. Donc ils sont quand même un peu contraints en fait par la situation qui leur est faite. Et donc en fait tout ça pose ces questions de ce que ça veut dire que travailler dans l'urgence. Alors on répond à une urgence, mais après l'urgence en fait elle s'installe quoi. Et c'est du provisoire qui dure. Et l'urgence elle est reconduite, elle se maintient et après, il faut pas se mentir. Là, le problème, c'est pas l'association, c'est un hébergement institutionnel qui est ô combien déficient, qui est disciplinaire, qui est peu sécurisant, etc. Et ce bricolage-là, il s'organise comme il peut, mais ça pose des questions. Il y a des associations qui ont fait des choix un peu différents. Par exemple, elles ont choisi d'héberger systématiquement sur des temps plus longs, de 2-3 semaines, certains 6 mois, etc. Donc c'est un peu des choix. Et en fait, les dispositifs, ils viennent répondre à des situations, mais après, ils créent des situations à leur tour, en fait. Voilà. Et je vais laisser la parole à Judith, qui va décrire une situation complètement différente. Voilà.
Je suis en train de perdre ma voix. C'est pas très pratique. Alors, en fait, tu disais, Alvina, que moi, j'allais parler d'un contexte complètement différent. Mais c'est pas tout à fait vrai. En tout cas, le point de départ, il est commun, puisque c'est celui des personnes qui vivent dans les camps. Souvent, c'est des personnes migrantes. En fait, moi, j'habite à Strasbourg. Et depuis 3 ans maintenant, et pas très loin de chez moi, il y a un jardin où il y a des tentes de personnes qui sont installées. En fait, j'avais jamais vraiment rencontré ces personnes-là, puis je savais pas comment rentrer en contact. Et malgré tout, ça me concernait. Je me sentais concernée. Et en fait, un jour, j'ai entendu dans un lieu que je fréquente, qui s'appelle la Semencerie, qui est un lieu où il y a des ateliers à Strasbourg. La cuisine allait être prêtée toutes les semaines pour cuisiner. Et en fait, c'était à l'initiative de 2 collectifs. Un collectif qui émanait de ce campement-là, qui était près de chez moi, qui s'appelle le camp des Glacis, puisque le parc s'appelle le parc des Glacis. Et donc, un collectif d'habitants. Et un autre collectif, qui était une sorte de petite cantine, qui s'était dotée d'une carriole à vélo. Et du coup, qui proposait de cuisiner ensemble, tous les samedis et tous les dimanches, pour apporter à manger dans ce campement-là, mais aussi dans d'autres. Et moi, ça m'a assez emballée, en fait, le fait que ça soit une initiative conjointe, et j'aime bien cuisiner, donc je suis allée voir ce qui se passait. Et en fait, c'était vraiment super, parce que du coup, on cuisinait ensemble, et puis aussi les moments de distribution, c'était des moments où on se rencontrait. Et du coup, il y avait des liens qui se créaient, des liens personnels. Et donc, on a fait ça pendant quelques semaines. Et en fait, il y a eu un événement qui est venu, qui a surgi, quoi. En fait, dans le campement des Glacis, un samedi matin, il y a un habitant qui est sorti de sa tente et qui a vu qu'un autre habitant était pendu à un arbre, mort. Et en fait, ça a évidemment causé un choc terrible, quoi, parmi les habitants. Puis, en fait... parmi toutes les personnes qui étaient en lien, disons, avec cet endroit-là, quoi. Et du coup, il y a eu une énorme réaction, en fait. Du coup, c'était un jour de cuisine collective, c'était aussi un week-end. Du coup, en fait, il y a plein de gens qui sont venus, en fait, pour discuter avec les personnes. Il y avait énormément de colère parmi les habitants. En fait, je dis les habitants parce que surtout des hommes. Il y a quelques femmes de temps en temps qu'on voit sur ce campement, mais surtout des hommes qui sont des migrants pour la plupart, soit en cours de demande d'asile, soit déjà déboutés du droit d'asile. Mais il y a aussi quelques Français. Et donc, en fait, on est plein de gens sont venus pour discuter. Il y avait donc cette colère et on a parlé de qu'est-ce qu'on pourrait faire de cette colère, de cet événement. Et en fait, les habitants, ils ont décidé d'organiser un rassemblement devant la gare centrale. Et on a, un peu les personnes soutien, disons, extérieures au camp, mais qui éventuellement avaient des réseaux militants ou associatifs. On a un peu fait circuler le mot. Il y a des mégaphones qui ont été apportés. Il y a des personnes qui ont pris l'initiative d'imprimer des textes sur d'autres personnes qui étaient mortes à la rue. Et donc, en fait, il y a eu ce moment-là où, en fait, devant la gare de Strasbourg, il y a des personnes qui ont pris la parole pour raconter leur histoire. En fait, avec vraiment la volonté de témoigner, de raconter qu'est-ce qui se passait dans leur vie, qu'est-ce qui se passait sur ce campement. C'était un moment assez incroyable. Il faisait hyper beau. Il y avait plein de monde qui passait. Et il y avait ces gens qui parlaient, quoi, qui parlaient parfois en anglais. Il y avait des traductions simultanées. Enfin, c'était assez fou, en fait. Et on a décidé de partir en manif. On avait fait des banderoles aussi. Et du coup, parce qu'en fait, dans mon texte, en fait, mon texte, c'est un récit. C'est un récit que j'ai écrit parce que j'avais envie un peu de faire le témoignage de ce que je voyais. Ça me frappait, puis ça me frappait aussi par rapport au thème de ce qu'on était en train de travailler avec la revue, qui parlait d'habiter, qui parlait aussi de qu'est-ce qui est central dans notre vie, qu'est-ce qui ne l'est pas. En fait, l'idée de pied-à-terre comme un endroit auquel on revient. Et, Qu'est-ce que c'est les interstices ? En fait, moi, je me sentais un peu prise dans cette histoire. J'avais d'autres préoccupations, en fait. Mais j'avais toujours envie d'y revenir. Parce que du coup, dans ce moment-là, qui était dans la ville, quoi, le surgissement de la vie, de ces personnes, de la vie quotidienne, quoi, qui avaient donc envie de montrer qu'ils existaient dans la ville, en fait. Il y a aussi évidemment un contexte à Strasbourg comme ailleurs de transformation urbaine qui est violente et qui évince en fait les personnes. En fait, à Strasbourg, il y a un phénomène qui est l'article qui s'appelle Strasbourg, capitale de la clôture, parce que en fait, il y a des clôtures qui poussent partout, où des camps ont poussé aussi. En fait, souvent, il y a des installations qui sont suivies par des expulsions de ces campements. Et après les expulsions, quand il y en a eu un certain nombre, je ne sais pas si c'est un nombre déterminé à l'avance ou pas, et ben en fait, ils décident que cet endroit-là, il ne doit plus servir à ça. Ils installent les grandes grilles vertes. Voilà. C'est une solution comme une autre. Et en fait, je pense que c'est, dans certains cas, c'est une solution provisoire parce que en fait, de toute façon, le quartier il est tellement en train de changer que les gens, c'est plus à cet endroit-là qu'ils vont s'installer, quoi. Quand un certain nombre de transformations se sont opérées, que les lieux ils sont devenus tellement hostiles aux personnes qui sont dans la difficulté. De toute façon, c'est plus là qu'ils vont venir, en fait. Les gens, ils s'installent en général à proximité de centres d'hébergement d'urgence ou de lieux où il y a des possibilités de prendre le café gratuitement ou d'accéder, enfin voilà, des lieux qui sont gérés par des associations. Et du coup, quand le quartier c'est devenu voilà un quartier gentrifié, comme on dit. Et ben, ça, il y a plus d'installation en fait. Et donc ouais, moi je voulais un peu raconter cet article, mais aussi c'est un article que j'ai écrit sous la forme d'une lettre et qui est daté de juin. Et depuis, il s'est passé énormément de choses. Et en fait, je pense que ce moment là de la manif que je raconte et ben en fait, c'était un peu un tournant, mais c'était un tournant dans un mouvement qui était déjà en train de se construire. Et en fait, depuis, il y a deux squats qui ont ouvert à Strasbourg. C'est très compliqué, la vie quotidienne dans ces squats. Et ça prolonge la question que posait Elvina, c'est-à-dire de... Bah oui, une fois que les gens sont à l'abri et qu'ils ont un toit sur leur tête, en fait, c'est pas du tout la fin des problèmes, quoi. Et notamment, tous les gens qui vivent dans ces endroits... ils disent tous, c'est temporaire pour moi. Je peux pas me projeter dans ce lieu-là parce que voilà, c'est pas un lieu destiné à l'habitation. C'est un lieu que je partage avec des gens avec qui j'ai pas choisi d'habiter. En fait, et puis en fait, voilà, il y a aussi le quotidien, les problèmes administratifs. En fait, le toit, c'est à la fois beaucoup et finalement assez peu comparé aux problèmes en fait que peuvent rencontrer certaines personnes. Donc ouais, ces squats là, apparemment il y aurait à peu près dans l'un une centaine de personnes, dans un autre c'est sûrement plus de 150. C'est énorme. Il y a eu un autre squat qui a ouvert, qui a été fermé tout de suite. Il y a un collectif de sans-papiers qui est né. En ce moment, il n'est pas très actif, mais il a... Enfin, voilà, il y a cette chose-là qui a quand même existé. Il y a aussi d'autres envies de faire des choses ensemble. Mais en fait, ça pose quand même vachement de questions. Et un peu de la même manière que... Enfin, c'est aussi une question que tu poses, Alina, dans ton article. En fait, c'est possible de mobiliser des gens en fait, sur ces questions de solidarité. Il y a beaucoup de bonne volonté. Mais en fait... Ça suffit pas forcément à créer une lutte commune et une lutte politique. Parce que voilà, les situations elles peuvent être très différentes entre des personnes qui justement sont extérieures tout ça, et des personnes qui sont dedans, dans les camps, dans ces situations, dans ces problèmes-là. En fait, ça, pour moi, ça pose beaucoup de questions. Et du coup, ni dans mon article, ni là, tout de suite dans mon intervention, j'ai de réponses à proposer à ce sujet-là. Mais moi, en tout cas, je trouve que c'est intéressant de se les poser, quoi. Et voilà.
Sur les trucs des transformations, c'est vrai qu'on est sur des situations hyper mouvantes. Et par exemple, à Paris, c'est des aides qui s'étaient organisées à Porte de la Chapelle. Ensuite, le centre humanitaire a fermé au bout de 18 mois. Et du coup, même déjà quand le centre était là et après la fermeture, c'était encore pire. Il y a eu un harcèlement policier sur les gens qui gravitaient autour du centre. Et ce harcèlement policier-là, il est démantèlement un peu systématique des organes, enfin dès qu'il y avait plusieurs tentes, dès qu'il y avait une dizaine de tentes qui s'installent quelque part, il y a un démantèlement. Et ce qui fait que les gens, en fait, ça s'est dispersé. Et donc, du coup, il y a eu moins de regroupements de plusieurs dizaines de tentes, et les gens sont allés se planquer en fait sous les ponts, dans des coins plus reculés de la ville où ils sont moins visibles. À cause de ce harcèlement policier. Ce qui reconfigure l'aide associative et collective aussi. Parce que du coup, c'est moins facile de centraliser les aides. Et l'autre chose que je voulais rajouter à ce que tu disais, oui, c'était ce truc de bonne volonté. Et chez les bénévoles, et chez les hébergeurs et hébergeuses, c'est des questions que moi aussi j'ai vues, quoi. Parce que chez, par exemple, les bénévoles, il y avait des bénévoles qui attendaient un certain comportement de la part des personnes qu'ils aidaient. Et après, l'autre chose, c'était effectivement des hébergeurs et hébergeuses qui aidaient même très régulièrement, qui étaient de très bonne volonté, etc. Mais chez qui je parle 5 minutes avec eux et j'ai plusieurs clichés racistes qui viennent, quoi. En 5 minutes. Voilà.
Ah non, je me rends compte que j'ai oublié de dire pas mal de trucs, mais, mais je propose que peut-être on parle ensemble. Je ne sais pas si vous avez des questions sur ce qu'on vient de raconter. Voilà.
Je vais poser une question à laquelle je viens de penser qui peut continuer de dérouler. Mais c'est vrai que pendant un moment, notamment avec Bruno, on était dans une forme d'organisation politique en squat à Montreuil, parce qu'il n'était plus possible de squatter à Paris. Je parle début des années 2000. Et y a eu une rencontre assez chouette, notamment avec des collectifs de Maliens. Je vais laisser parler Bruno, si tu veux bien, peut-être là-dessus, sur les croisements qu'il y a pu y avoir à ce moment-là entre une forme d'organisation politique, parce que c'est un peu ça, j'ai l'impression que tu disais, ça ne va pas apporter une réponse totale à ta question, mais je pense qu'il y a eu, pendant quelques temps, en tout cas, on a pu expérimenter une forme de partage qui n'était pas justement uniquement tournée vers l'humanitaire, mais vers une composition entre des problématiques de personnes migrantes. Alors, certaines avaient des papiers, d'autres non, mais voilà, qu'il y avait des formes communes, notamment sous la forme squat, mais qui n'était pas un squat d'habitation, qui était des squats partagés entre zones politiques et zones d'habitation, et où il y avait un réseau, en fait. Enfin, je ne sais pas, peut-être, si tu veux bien dire 2 mots là-dessus, toi, tu étais plus investi, peut-être.
Oui, pardon, c'est difficile, parce que je voulais faire une autre ouverture. Oui, pardon, c'est difficile, parce que je pensais à faire une autre ouverture. C'est là où je vois bien qu'il fait bien partie de Jeff Clark, et il fait son ancien rédacteur en chef, à savoir, là, on a... Non, mais dans le sens du montage dont je parlais tout à l'heure, là, on a raconté ton expérience, Judith, d'habitante de Strasbourg et de solidarité avec des gens là-bas et d'expérience dedans. Toi, plutôt une enquête dans un dispositif un peu para-institutionnel. Et par exemple, dans ce numéro, on se disait, pour parler de ces questions-là, clairement, il manque aussi la parole des premiers concernés. Enfin, je pense qu'il y a un truc dans ce qu'on essaye de faire, c'est quand même de faire attention de pas parler à la place des gens et tout. Enfin, là, c'est parce que ce que tous les deux vous avez parlé de trucs que vous connaissiez ou dans lesquels vous étiez dedans. Et du coup, ça nous semble hyper important. Et dans la parole des premiers concernés, dans le numéro précédent, par exemple, qui s'appelait Courte à pied. Course à pied. Non, mais c'est hyper dur de faire. C'est comme compter à l'envers. C'est hyper balèze. Je suis obligé de repartir à Marabout. Il faudrait que j'arrive à faire une longue phrase pour le faire en même temps dans ma tête. Bon, bref. Mais dans le précédent numéro, on a pas mal parlé aussi de migration et de passage de frontières, et où il y avait pas mal de récits à la première personne, notamment d'évadés de prison et de migrants. Oui, enfin, notamment un témoignage de migrants sur comment éviter de se faire mettre dans un avion pour être envoyé ailleurs. Et dans ce numéro-là, on n'avait pas tellement prévu de récits comme ça. Du coup, on a pas mal été chercher dans les archives. Et autant le numéro d'avant a pas mal de récits à la première personne, autant celui-là a pas mal d'archives. Dont deux choses. C'est pour ça que ta question me trouble un peu, Ferdi. C'est que moi, je voulais peut-être ouvrir en lisant un extrait d'un journal de sans-abri de Baltimore dans les années 90 qu'on a publié dans ce numéro. Donc là, pour le coup, qui sont des situations différentes. C'est aux États-Unis, à Baltimore, dans les années 90, au moment de la gentrification de la ville y compris, quoi. Pour le coup, enfin, là où c'est marrant que le thème de pied-à-terre, et là, on l'entend bien dans le récit de Judith, comment les thématiques, enfin des thématiques des fois, souvent qu'on traite séparément de manière militante, la gentrification et la gestion des migrants, comment elles se croisent totalement. Enfin là, l'histoire de Strasbourg, clairement, c'est un peu le cas. Et ça s'est trouvé pas mal avec ce numéro. Et donc là, le journal, donc là c'est un journal de sans-abri américain, enfin où il n'y a pas forcément la thématique migration, mais qui est un journal qui a été écrit pendant, je ne sais plus, à peu près au moins 5 ans, par des sans-abri sur leurs conditions, et qui pour le coup, au niveau de ce qu'ils revendiquent et ce qu'ils affirment comme auto-organisation, est hyper fort. Alors après là, je ne te réponds pas du tout, et une autre archive qu'on a publiée dans ce numéro correspond un peu à l'expérience dont parlait Ferdinand, à savoir des jeunes squatteurs qui viennent de traverser, des jeunes étudiants qui viennent de traverser un mouvement social, la lutte contre le CPE en 2005, qui se demandent comment continuer à faire de la politique, qui rencontrent des gens qui squattent à Montreuil dans une ville où il y a beaucoup de travailleurs sans papier maliens qui sont dans des foyers, qui vont ouvrir des squats dans le quartier d'un foyer, rencontrer des gens du foyer, des très jeunes gens d'un foyer qui est hyper surnuméraire pour le coup, enfin, où les gens dorment dans les couloirs tellement ça déborde de partout, qui vont se dire, ah, où le modèle du squat, enfin disons, squatter une maison, ça va être pour eux une manière de sortir du foyer et de pouvoir vivre autrement que dans un couloir et de s'organiser pour le quotidien différemment. Et c'est en même temps à une époque où la chasse aux planches sans papier est en train de changer de forme, enfin, c'est-à-dire à Paris, là, ça commence à être loin, ouais. Ça doit être en 2007, il y a un temps où il y a beaucoup de rafles dans le métro, enfin, c'est-à-dire des gros dispositifs policiers qui attaquent le métro, on peut le dire comme ça, mais en tout cas qui enserrent un métro à certaines heures, en général assez tôt, c'est-à-dire les heures où c'est essentiellement des travailleurs étrangers qui prennent le métro, pour les rafler. Ça, médiatiquement, il commence à y avoir du schprunt là-dessus, donc ils changent de tactique, et à un moment, ils se mettent à juste envoyer une voiture de police par jour aux abords du foyer à peu près aux mêmes heures, soit quand ils rentrent, soit quand ils partent du travail. Ils arrêtent 200-300 papiers, ça, ils le font... Mais ils le font une fois par jour sur les trois foyers de Montreuil, ce qui, dans le temps, mine de rien, fait beaucoup d'arrestations. Et comme nous, on vit dans des squats juste à côté du foyer, machin bidule, on décide de créer des assemblées pour discuter de ça et de créer une espèce de numéro d'urgence de chaîne téléphonique où, dès qu'on voit que les flics se mettent en place, on peut envoyer à cette chaîne téléphonique le message qu'il y a une rafle en cours, et les gens peuvent intervenir, etc. etc. Mais je ne sais pas si je suis très clair. Mais en tout cas, ça, c'est juste un exemple de... Et nous, là, pour le coup, c'était un type de politique qui était vraiment très localiste et qui était basé sur le voisinage. Enfin, là, dans le numéro, il y a juste la reproduction. Dans ce Jeff Clack-là, c'est l'extrait d'un fanzine qui a été fait après un moment particulier, à savoir une forte répression Non, pardon, c'est compliqué l'histoire, il y a plein de trucs qui s'enchassent. Donc ce que nous, on publie, c'est après un grand moment de répression où il y a un squat qui, pour le coup, comme disait Ferdi, n'est pas un squat d'habitation, mais un squat qui a une activité, aussi une activité publique sur la ville, c'est-à-dire avec un collectif de chômeurs qui fait des permanences sociales, un truc qu'on appelait le cercle de logement où des gens qui sont justement en galère de logement, qu'ils soient sans papier ou avec papier, disons là plutôt ce groupe pour essayer de voir s'ils veulent vivre ensemble, ouvrir un squat ensemble et chercher des lieux, des radios de rue pour informer sur ce qui se passe politiquement sur la ville, la continuation du numéro d'urgence dont je parlais tout à l'heure, qui s'est étendu de la lutte contre les rafles de sans-papiers à aussi la lutte contre les expulsions de logements. Bon, bref, ça s'appelait la clinique. À un moment, l'État a décidé de l'expulser avec grands moyens, enfin plus de 200 CRS. Voilà. Donc une expulsion, j'allais dire, assez violente, et avec le RAID, etc. Donc une expulsion qui est hyper violente, mais qui ne fait pas de blessés, parce que c'est vraiment un moment d'entraînement de la police où ils font attention à bien faire les choses, ils chronomètrent jusqu'au moment où ils vont enlever le drapeau anarchiste qui est en haut de l'immeuble. Donc l'expulsion se passe plutôt de leur côté, plutôt bien. Après, le soir, par contre, il y a un rassemblement pour publiciser sur la ville qu'il y a eu une expulsion. Et à ce moment-là, une petite déambulation part faire une manifestation autour du lieu de l'expulsion. Et là, les CRS se mettent à tirer au flashball dans le tas et blessent 4 personnes sur... Non, blessent 6 personnes sur les 6 tirs qu'ils font, en vrai. Et une personne va perdre un œil. Donc c'était la deuxième personne qui avait perdu un œil. C'était peu de temps après la mise en usage du flashball. Enfin, pas vraiment. C'était peu de temps après que le flashball ne soit plus utilisé que dans les prisons, parce que c'est là où il a commencé à être expérimenté, puis dans les banlieues. Donc c'était les premiers mouvements sociaux réprimés au flashball. Et ce journal se consacre, a été écrit juste après cette expérience-là, donc dans un truc un peu traumatique où on revient sur toute la séquence d'ouverture de squat et de travail avec les sans-papiers jusqu'à ce gros épisode répressif, quoi. Je ne sais plus si j'ai dit ce que je voulais dire à la base. Mais c'est pas grave.
Est-ce qu'on y a un passage... Tu veux lire,
ouais. C'est celui sur les bancs.
Celui-là,
ben, comme, on veut.
Comme tu veux. Celui-là écrit du blessant débat. Ouais,
oui.
Bah, celui-là, il est plus positif, non ? Il est plus revendicatif, non ?
Oui, c'est ça.
Allez. Nous, la racaille et les bons à rien, nous voulons retrouver nos bancs. Méfiez-vous de certains organismes publics qui prétendent que leur mission est de changer ou d'améliorer quelque chose ou quelqu'un. Le plus souvent, leur définition d'améliorer signifie nous prendre des choses que nous trouvons agréables ou bien chercher une excuse pour se mêler d'une façon ou d'une autre de nos vies. Un caressant en exemple. Au cours des dernières semaines, tous les bancs du centre commercial Lexington, entre Howard et Utah Street, ont été embarqués au milieu de la nuit. Ils n'ont pas été volés par des junkies, des mendiants ou un gang de vendeurs des rues avec leurs charrettes, c'est-à-dire le type de gens qu'on accuse généralement d'être responsables de tout ce qui va mal dans le coin du centre-ville. Mais même si nous ne connaissons pas l'exacte identité de l'organisme coupable, bien que nous puissions probablement supposer que l'association commerciale du centre-ville y est mêlée, nous pouvons parfaitement imaginer le raisonnement qui a abouti à une telle décision. Une décision qui a été prise en privé, sans aucune consultation du soi-disant grand public, qui, paraît-il, était très menacé par ce qui se passait au centre commercial. Et le raisonnement ressemblait probablement à ça. Les bancs attiraient beaucoup trop de sans-abri et de personnes de la rue. Ces gens faisaient des choses ignobles et terribles, comme par exemple boire du vin caché dans des sacs en papier, chanter a cappella au lieu d'acheter des CD et des Walkman, faire des rencontres et peut-être le pire de tout, traîner pendant des heures sans dépenser d'argent dans les magasins alentour. Mais si nous retirons les bancs, la racaille, les bons à rien s'en iront et le problème sera résolu. Il y a juste un petit problème dans ce raisonnement. Les bancs étaient utilisés par tout le monde. Des personnes âgées, des mères avec leurs enfants, des secrétaires, des étudiants et des artistes. Et même un ventriloque et son singe qui débitaient des grossièretés. Toutes ces différentes personnes utilisaient les bancs parce que, contrairement à ce que des groupes comme l'association commerciale du centre-ville pouvaient penser, les gens s'assoient sur des bancs pour reposer leurs pieds ou observer ce qui se passe autour d'eux, et non parce qu'ils sont sans abri ou mendiants, ou d'une façon ou d'une autre peu recommandables. Alors quand vous retirez les bancs, vous privez tout le monde, et pas seulement quelques-uns, que vous avez choisi de punir du droit de s'asseoir dans un espace public. Et ensuite, est-ce que tous les bancs autour du bâtiment de la compagnie de gaz et d'électricité vont disparaître pendant la nuit ? Si vous trouvez que nous exagérons, essayez de trouver une fontaine où coule vraiment de l'eau en centre-ville un jour de plein été. Elles ont toutes été secrètement coupées. Il semble que plus ils prennent de choses aux gens ordinaires, plus ils se vantent d'améliorer ou de remettre à neuf le centre de Baltimore. Nous, à Street Voice, aimerions lancer une campagne à propos de ça, et notre slogan est très simple. Nous, la racaille et les bons à rien, nous voulons retrouver nos bancs. Parce qu'aux yeux de l'organisation qui a retiré les bancs du centre commercial, toute personne qui a éprouvé le désir de s'asseoir sur l'un d'entre eux doit faire partie de la racaille ou des bons à rien. Si vous souhaitez participer, contactez-nous.
Bah, du coup, pour revenir sur ces questions d'hébergement solidaire et de questions de migration, d'espace et tout ça, bah, moi, il y a un truc, quand je suis arrivée à Charleville, je me suis rendu compte qu'il y avait quand même une CIMADE qui était très, 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 très péchue dans notre département. Et par contre, j'ai été complètement étonnée du fait qu'ici, à Charleville, alors même qu'il y a énormément de logements vides, il n'y a aucun squat. C'est pas du tout dans la culture politique du département de squatter, de prendre des logements pour loger des personnes qui en ont besoin. Et pourtant, il y a des gens à la rue, des migrants et d'autres qui sont à la rue. Il y a des gens qui ont besoin de logement et il n'y a aucun squat. Et je ne sais pas, là je m'adresse au Carolo Massarien parce que moi je ne connais pas trop la situation depuis longtemps, mais est-ce qu'il y en a déjà eu ?
Sûrement, mais pas ma connaissance. Et en fait, en ce qui concerne les migrants, c'est très récemment que les autorités ont osé les mettre dehors. On était, alors que nous avons une préfecture dure et pas du tout encline à aider les personnes migrantes. En ce qui concerne les hébergements, jusqu'à il y a un an et demi maximum, il n'y avait jamais de personnes migrantes dans la rue. Il y a des personnes dans la rue, mais qui ne sont pas forcément des migrants. Alors, moi, je peux vous dire que là, il devait y avoir, là, aujourd'hui, une famille de migrants à la rue. Et il y a eu immédiatement des appels téléphoniques. On a commencé par trouver une solution pour le week-end, c'est-à-dire de vendredi à lundi. Et puis on a trouvé une autre solution, puis il y a eu une autre solution. Alors nous sommes un tout petit département. Nous ne sommes pas Paris. Nous n'avons ni Strasbourg. Nous n'avons pas autant de personnes migrantes que dans les grandes villes. Et en fait, on a quand même des assos qui se tiennent les coudes pour dépanner, en fait. Cela dit, il y a d'autres problèmes. Ce que vous avez exprimé comme souci dans le côté très temporaire de ces accueils de dépannage, qui existent aussi à Bruxelles. Vous connaissez à Bruxelles ? C'est également très bien organisé. Ils s'arrangent pour qu'il n'y ait pas de migrants qui dorment dehors. Et pour la petite histoire et pour vous faire sourire, parce qu'on pense tous la même chose ici, un soir, il y a eu une fuite et la police bruxelloise devait faire un grand ramassage de tous les migrants qui se retrouvaient dans le parc avec les associations qui faisaient le travail que vous faisiez. Et tout le monde s'est donné le mot. Les migrants, comme par hasard, il n'y en avait pas un. Et il y avait tous les gens qui accueillent, qui étaient à la place des migrants et qui se sont fait tous contrôler, mais c'était prévu et organisé. Donc ce sont des petites choses qui, malgré tout, nous font un peu chaud au cœur. Voilà. Bon, alors, dans les Ardennes, on a des problèmes autres que les hébergements. En revanche, nous avons quelque chose de magnifique qui est tout simplement sensationnel en 2000, bientôt 20, c'est l'hébergement d'urgence où les gens ont le droit d'être à l'intérieur de l'hébergement, c'est ce que vous évoquiez, de 20h à 8h. À 8h, ils prennent leur clic et leur claque, ils sortent, ils sont pour toute la journée dehors, avec bébé, avec les enfants, avec tout ce que vous voulez, et ils doivent prendre leurs affaires et ils doivent téléphoner au 115 pour avoir le droit de réintégrer la même chambre au même endroit. Et ça, excusez-moi, citoyen, qu'est-ce que vous en pensez ? Vous pouvez me dire à quoi ça sert de foutre des pauvres gens dehors ? Alors, je vous rassure une fois encore, on a une école qui est juste en face, qui accueille les enfants, bien évidemment, au fur et à mesure, et les reçoit à la cantine. Je veux dire, les Ardennes, c'est un département qui a beaucoup souffert, et on y trouve quand même une certaine solidarité. Nous qui ne sommes pas Ardennais, on était vachement étonnés et admiratifs. Voilà.
Bon, j'ai trouvé très intéressant votre exposé, votre petite conférence, surtout parce que j'ai trouvé qu'en tant qu'écrivain d'une revue, vous pouvez avoir un certain regard neutre, en fait. Mais je me posais en fait une question. Est-ce que dans vos expériences personnelles, vous avez vu qu'il y avait certaines associations ou enfin qui avaient un lien avec l'emploi en fait, qui essayaient en dehors du logement qui est sûrement la première des urgences. Mais après, pour trouver une solution sur le long terme, peut-être c'est par l'emploi ou peut-être c'est par le fait de recevoir un certain revenu stable ou quelque chose comme ça. Est-ce que vous avez été en contact avec ce genre d'expérience ?
En fait, j'avais envie de dire, c'est assez incroyable en fait ce système. En fait, il fait avaler en fait aux gens des choses incroyables en fait, littéralement. C'est fou. Ce que ça implique en termes d'humiliation, que pour avoir droit à être hébergé, à avoir cette chose, comme on disait, essentielle, mais quand même qui ne résout pas tout, qui est un toit, on est obligé de se soumettre à ces humiliations et de faire comme si ça n'existait pas, de rentrer tout ça et de continuer à dire oui, ok, j'appelle le 115, encore une fois. Et je dois encore une fois écouter cette musique d'attente, complètement débile. Et en fait, moi, je trouve que ça, c'est vraiment quelque chose de choquant, en fait, de vraiment grave. Ouais.
Ils tombent des halbardes, les gens dehors quand même.
Oui. Juste, on se le dit souvent avec Judith, mais dans Course à pied, il y a un entretien avec des évadés, des gens qui se sont évadés de prison. Et il y a un évadé récidiviste qui s'est évadé deux fois, qui raconte que le moment où il a commencé à jouer le jeu de l'univers carcéral, en donnant des cours de tennis, en travaillant pour trois fois rien dans la prison, on lui a accordé une liberté conditionnelle de 5 jours. Et en fait, au bout de ces 5 jours, ce qui se passait, c'est pas qu'on venait le chercher, mais il devait se repointer à la prison, sonner à la prison pour se refaire enfermer. Et en fait, ces genres de dispositifs administratifs, c'est ça, c'est toc toc. Non, mais c'est pire que ça. Mais ça demande de se dissocier de l'idée qu'on a de soi-même, quand même. Enfin, c'est un niveau de perversité que j'ai du mal à qualifier.
Enfin, pour répondre aussi sur l'emploi, enfin, en vrai, le dispositif d'hébergement d'urgence, il ne s'adresse pas du tout aux migrants, mais il s'adresse à toute personne vivant dans la rue. Et l'axiome de ce dispositif, si on demande aux gens d'être dehors entre 8h et 20h, c'est pour chercher du travail. Enfin, officiellement, ce serait pour chercher du travail. Et objectivement, et ils le disent aussi comme ça, c'est pour que les gens aient un comportement de travailleur. Un travailleur, il est dehors de 8h à 20h. Même s'il n'a pas de taf, il faut donner tous les signes. Enfin, c'est tout sur le volontarisme. Dans la mesure où c'est de leur faute si tu n'as pas d'emploi. Enfin, c'est ta faute si tu n'as pas d'emploi. Et la seule chose que ces dispositifs te proposent, c'est d'avoir le comportement d'un travailleur normal et de te lever tôt et tu serais censé aller chercher n'importe quel employeur et te proposer en sachant que c'est faux, etc. Mais tu es censé revenir le soir avec des preuves de recherche d'emploi, des choses comme ça. Enfin, c'est là-dessus, le logement et l'emploi dans les dispositifs d'aide, entre guillemets, étatiques, c'est hyper lié, quoi, de toute façon. Alors qu'objectivement, je crois que plus de 50% des gens qui vivent à la rue ont un emploi en vrai. Enfin, les deux choses sont totalement séparées.
Ouais, et sachant qu'officiellement, les demandeurs d'asile n'ont pas le droit de travailler. Ça, c'est quand même vraiment important. On leur verse une allocation qui est assez misérable, qui est de moins de, moins de 400 euros, je crois, c'est dans les alentours de 350. En tout cas, à Strasbourg, c'est comme ça. Et c'est censé leur permettre de se loger. Évidemment, c'est impossible de se loger avec 350 euros et de se nourrir aussi. Et en fait, ils n'ont aucune autre source de revenus. Ils n'ont pas le droit d'avoir une autre source de revenus. Donc, moi, je n'ai pas eu connaissance d'associations qui proposaient ça. Ensuite, les déboutés du droit d'asile, ils sont illégaux, donc ils n'ont pas non plus l'autorisation de travailler. En fait, personne n'a le droit de travailler. En tout cas, juste encore pour reboucler avec cette histoire, moi je trouve que par exemple, ravaler sa propre colère, en fait, c'est quelque chose d'un peu inhumain, quoi. Enfin, c'est comme disait Alvinas, forcé à se dissocier de son humanité, en fait, un peu.
Pour répondre un petit peu à ta question aussi, je ne sais pas s'il y en a d'autres après, parce que du coup, je peux aussi laisser la main s'il y a d'autres questions. Je suis pas. Il y a une question après. Ok. C'est juste que d'une autre revue qui a été rééditée il y a pas longtemps, qui s'appelle Z, on avait fait un gros travail sur la question justement du travail social et de l'hébergement d'urgence et des gens à la rue. Et sur la question du travail, il y a un petit truc que j'aimerais raconter parce qu'on l'a oublié depuis, qui est quand même assez important. D'une part, la mise en place du 115, ça s'est fait en même temps qu'une informatisation de l'hébergement d'urgence. C'est-à-dire qu'en fait, à un moment donné, où dans Paris en tout cas, l'hébergement d'urgence était lié à des problématiques locales, et il y a des associations locales qui hébergeaient, qui essayaient de gérer en fait selon les quartiers les gens à la rue. Donc c'était un petit peu, c'était pas forcément hyper mieux qu'aujourd'hui, mais c'était un petit peu plus humain dans le sens qu'il y avait des relations de longue durée et surtout des relations d'anonymat. Le 115 a permis une informatisation, c'est-à-dire un fichage de chaque personne qui appelle le 115, qui doit passer par un fichier, être informatisé et qui du coup rentre dans un processus de surveillance de la préfecture, de l'État, des services sociaux, des services sanitaires, etc., etc. Et qui fait que, en fait, on rentre dans une autre gestion du rapport à la détresse et du rapport à la précarité. Et Jeff Clack continue d'arriver en permanence chez Josette. Dans 2 heures, il y en a 8 de plus qui arrivent. Et voilà. Donc ça, c'était une chose, c'est de penser aussi que cette logique du 115, c'est aussi cette logique d'humiliation, mais c'est une double humiliation, c'est-à-dire que on n'est plus dans une relation d'humain à humain, mais dans une relation d'humain à État, et qui dit humain à État dit d'humain à surveillance et à répression potentielle. Ça, c'est une chose. Et la deuxième chose, ce que je voulais qu'on n'oublie pas, c'est que tout ce qu'on vit aujourd'hui, et ça s'est déplacé sur les migrants, mais ça a été effectivement d'abord fait sur les situations de grande précarité de personnes qui avaient la nationalité française, c'est qu'en 2001 a été votée la loi, la LOLF, la loi de finances européenne, qui a inscrit à son programme, pour tous les pays ressortissants de l'Europe, une baisse du nombre des associations de 70%. Par un système de gestion centralisée des ressources destinées aux associations, donc des subventions, qui permettrait, et c'est ce qui est aujourd'hui en train de se vivre, qui permettrait en fait non plus de fonctionner, comme je disais, par des situations locales, c'est-à-dire on est dans un endroit où il y a beaucoup de toxicomanes, donc on va faire une action sur la toxicomanie, on est dans un endroit où il y a beaucoup d'alcoolisme, on va faire une action sur l'alcoolisme, on est sur, etc. etc. Non, là c'est devenu une logique d'appel d'offres, c'est-à-dire à un moment donné, l'Europe envoie aux différents États ressortissants de l'Union européenne des grandes directives année par année. Donc cette année, ça va être la toxicomanie. cette année, ça va être le droit des femmes, cette année, ça va être les questions de race, etc., etc. Et du coup, les associations doivent postuler selon les thèmes imposés par ces grandes directives pour avoir des subventions. Et en même temps que ça, il y a eu un système de, comment dire, de mise en place de régimes fiscaux très avantageux pour les fondations d'entreprises, qui ont fait que les fondations d'entreprises se sont multipliées et ont avalé toutes les petites associations. Ce qui a donné, et c'est pour répondre à ta question sur le travail, des situations où, en fait, par exemple à Paris, en 10 ans, toutes les 80% des associations qui luttaient contre la grande précarité, les gens à la rue, etc., sont fait racheter par une seule. Donc 80% sont fait racheter par une seule fondation, qui est Aurore. Or, Aurore, c'est une fondation qui dépend directement, qui est une fondation qui émane directement de Vinci. De Vinci Autoroute et Vinci machin. Et du coup, cette association Aurore, qui a racheté tous les centres d'hébergement où les gens allaient au 115, et qui ensuite a acheté toutes les associations de réinsertion professionnelle par le travail, s'est mise à défiscaliser toute sa part. Donc au lieu de payer des impôts, en fait, elle faisait ça. Mais qu'est-ce que ça lui permettait? Ça lui permettait, en fait, de faire travailler des gens pour les remettre dans le droit chemin, entre guillemets, mais dans des chantiers de bâtiments en général, pour Vinci. Donc en gros, le système que ça a créé, c'est de la réinsertion professionnelle de la main-d'œuvre payée des miettes, parce qu'en fait, la réinsertion professionnelle, c'est des salaires de 300 ou 400 euros pour ce que quelqu'un serait payé pour un SMIC, en fait, parce qu'ils sont en réinsertion professionnelle, il ne faut pas déconner non plus. Ils sont hébergés, il ne faut pas déconner non plus. Et en même temps, ils travaillent à construire des autoroutes, ils travaillent à construire des bâtiments pour Vinci à 300 euros par mois. Et donc, en fait, ce système-là qui s'est mis en place, on en parle très, très peu, mais justement, donc, la remise au travail et la logique de la réinsertion par le travail, elle est très compliquée. Nous, on suit collectivement une personne migrante. On sait très bien qu'il y a besoin de travailler, qu'il y a besoin de s'autonomiser sur certains trucs, mais comment éviter aussi à ces personnes-là de rentrer dans ce système-là de travail que nous-mêmes, on ne voudrait pas? C'est la question qu'on s'est posée avec la personne qu'on a accompagnée pendant un moment, c'est-à-dire, oui, il faut que cette personne travaille, mais il ne faudrait quand même pas lui trouver un boulot que nous-mêmes, en tant qu'accompagnants, en tant que personnes qui avons la nationalité française, on ne voudrait pas, c'est-à-dire on ne veut pas lui trouver un boulot de merde, payer des miettes pour construire des autoroutes. Et ça, c'est là où ça devient compliqué, effectivement, et comment on mène une action politique avec les personnes en difficulté, c'est-à-dire une action politique, c'est-à-dire ne pas juste leur dire, bah ouais, il suffit que tu trouves du taf, et puis une fois que tu auras trouvé du taf ou un hébergement, ça ira mieux. C'est pas vrai. On ne veut pas pour ces personnes-là une vie de merde comme pour nous, on n'en veut pas. Voilà. Donc c'est toutes ces problématiques-là qui, à mon avis, se mettent en place.
Ouais, alors moi, ça n'a rien à voir avec le travail. C'était sur le logement. Je suis désolé de passer du coq à l'âne. Ça m'intéresse le débat sur le travail. Donc je ne sais pas s'il y a d'autres gens qui veulent poser une question sur le travail. Donc, moi, c'est sur le logement plutôt. On a pas mal parlé d'hébergement pour les migrants. Mais effectivement, moi, l'hébergement solidaire, ça touche un peu plus large. Là, je reviens de Marseille parce qu'il y a mon père qui fait partie du collectif du 5 novembre. Il a été délogé en décembre dernier. Effectivement, il y a des milliers de familles aujourd'hui qui se retrouvent dans une situation d'hébergement qui n'est pas un hébergement ponctuel sur un jour, mais qui est un hébergement ponctuel des fois sur deux semaines, des fois sur trois semaines, des fois sur un mois, avec des mises à l'hôtel, avec des gens qui sont dégagés des hôtels du jour au lendemain. Moi, ce qui m'intéressait dans ce que vous disiez, et ce qui m'intéresserait de développer, peut-être une question à poser aux associations comme la CIMAD, mais là, j'ai vu qu'Arlette n'était plus là, c'est surtout à quel point les assos jouent le jeu institutionnel. À Marseille, par exemple, on a vu qu'il y avait un collectif qui s'était formé et qui ne voulait plus passer par les associations qui s'occupaient du logement pour les personnes en situation de délogées. En tout cas, c'était la même chose avec les migrants. Hein. Au début des années 2000, à Marseille, il y a eu pas mal d'ouvertures de squats au panier pour ces questions-là et qui étaient justement contre le dispositif proto-institutionnel des associations. Et moi, justement, ce qui m'intéresserait, c'est de savoir comment est-ce que les associations, notamment la CIMAD, là, ils ne sont plus là, c'est dommage, mais peut-être que vous pourrez nous répondre. Comment est-ce que les associations, aujourd'hui, jouent ou pas le jeu institutionnel? Est-ce qu'elles arrivent à trouver des stratégies pour se dévier du jeu institutionnel? Est-ce que vous, dans vos diverses enquêtes, vous avez constaté ça? Est-ce qu'il y a des associations qui détournent un petit peu le côté institutionnel et qui arrivent à jouer avec pour mener des politiques qui sont peut-être plus pérennes? Ou est-ce qu'au contraire, elles sont coincées dans un jeu institutionnel? Et est-ce qu'à ce moment-là, une des solutions, ça peut être dévier ou du moins de ne pas du tout passer par le cadre associatif dans la question du logement, puisque c'est un cadre qui paraît à la fois précaire et puis qui amène des situations, comme vous l'avez dit, qui sont parfois tendues. Moi, j'ai eu des situations, bah, je reprends Marseille parce que c'est là d'où je viens et c'est là où j'ai un peu expérimenté ça, mais j'ai eu des situations où il y a des gens qui me disaient mais tu te rends compte qu'on a accueilli un migrant et on s'est aperçu qu'il était de droite. Bah ouais, ça arrive quoi. Enfin, il y a des gens de droite de partout quoi. Ça veut pas dire qu'il a pas le droit de dormir chez toi quoi. Donc voilà. Et c'est, en fait, on se retrouve face à des situations comme ça parce que c'est des gens qui se connaissent pas, qui discutent un ou deux jours ensemble. Et des fois, bah, évidemment, ils se rendent compte qu'ils sont pas d'accord les uns avec les autres et que ça matche pas. Mais c'est pas grave. Et peut-être c'est le dispositif institutionnel qui amène ça. Et donc moi, ma question, c'est est-ce que il n'y a pas d'autre solution que ça pour loger les gens et pour faire en sorte au moins d'avoir une situation de stabilité psychologique, savoir où on est, où on réside, où on vit, pour pouvoir bâtir la suite, quoi.
Non, mais j'ai entendu beaucoup de choses comme ça, en fait, pendant mon enquête. Effectivement, de gens qui étaient... Qui étaient face à une personne qui ne correspondait pas à ce qu'ils avaient envisagé. Et du coup, en fait, il y a une mythologie de l'aide, en fait, hein, avec des personnages, etc. Effectivement, il y a des personnes qui n'ont pas les parcours de migration qu'on valide. Et du coup, en fait, les hébergeurs et moi, c'est de ça dont je vais parler, mais qui valident ou invalident des vécus selon ce qui leur paraît... secourable ou pas secourable, quoi. Voilà. Et oui, je sais pas comment dire, il y a une espèce de morale qui s'installe, quoi, qui devrait pas avoir sa place, en fait. Soit l'aide, elle est conditionnelle, soit elle est inconditionnelle, mais il faut décider, quoi. Enfin, et s'il y a des implicites, non. Ah bah non. De fait, les situations associatives, elles ont tendance à produire des situations humanitaires, hein, c'est-à-dire avec des gens secourus et des gens qui secourent. Et donc, elle est construite sur cette dichotomie-là, et donc elle produit ces situations-là. Et dès lors qu'il y a des formes d'autogestion ou d'auto-organisation, ou alors qu'il y a, comme le mentionnait Bruno, des alliances politiques différentes, c'est-à-dire un collectif de sans-papiers qui s'allie avec un autre type de collectif, et du coup, il y a une alliance politique qui se construit autour d'un besoin identifié par l'un et l'autre, etc. Bah, ça produit d'autres situations, mais après, qui peuvent déplacer, en fait, les problèmes, produire d'autres types de problèmes, voilà.
En fait, sur cette question-là de construire d'autres relations que celles de secouru ou secouré, en tout cas, je sais pas grand-chose, mais je sais que c'est pas simple et que ça nécessite des remises en question qui sont pas... qui sont pas évidentes, quoi. Entre la position qui consisterait à dire bah, en fait moi je suis pas dans cette situation, donc moi j'ai pas mon mot à dire, et qui finalement est une position un peu de désolidarisation de ce que les autres traversent, et en même temps la question comment trouver sa place, quoi, pour pas prendre celle d'un autre, par exemple dans un squat, pas que quelqu'un qui est extérieur occupe la place d'un résident ou d'une résidente, parce que en fait c'est pas juste dans une réunion, par exemple, c'est pas juste que la question du ménage ou de comment est-ce qu'on gère les accueils, les nouvelles personnes qui ont besoin d'hébergement, en fait, c'est bizarre que ça soit quelqu'un d'extérieur qui s'exprime là-dessus, quoi. Comment est-ce qu'on fait pour pas kidnapper les enjeux des autres, mais en même temps en être solidaire. En fait, ça demande beaucoup de réflexion et c'est pas simple. Et franchement, par exemple à Strasbourg, ce qu'on voit, c'est que par exemple ça, c'est très difficile, quoi. Enfin, ouais, c'est très difficile. C'est beaucoup de bricolage, en fait.